Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. Bon dimanche à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute. Vous vous réveillez peut-être tranquillement avec nous ou sinon vous nous écoutez en podcast un petit peu plus tard pour profiter de la matinée. Vous avez bien raison. Mais on est quoi qu'il arrive heureux de vous accompagner encore et on vous attend évidemment au 32-16. Vous êtes nos grandes gueules du sport et sur WhatsApp au 06-12-424-424. On va parler de tout aujourd'hui, de foot, de rugby, de Formule 1, de tennis et même de cyclisme avec Christophe Cessieux qui est là de bonne humeur. Hein, toujours sur
toujours de jeu du sport jusqu'à midi moins 2.
Midi moins 2,
Bennett m'énerve, donc je quitte l'émission énervé.
T'as perdu tout seul hier.
Ah non, mais hier c'était incroyable. Hein. Christophe a activé une question impossible à égalité.
Alors qu'il y avait
le match. Il s'est mis dans le chaussé tout seul.
Marc, donne-moi dans l'ordre les couleurs de l'arc-en-ciel.
Bonjour, les couleurs du maillot. Noir, jaune, vert.
Voilà. Ah ben voilà. Il fallait appeler coup de fil à un ami, coup de fil à Marco.
On n'a plus le droit à cause de Fred qui nous a cassé le truc.
Bonjour Marc Madio.
Bonjour.
Ça va Marc?
Pas mal.
Ouais. À une semaine du Giro d'Italia.
Si.
T'as mis déjà tenue italienne.
Évidemment.
Ouais. T'as un maillot un peu vintage.
Oui.
Tu sais que sur les réseaux, certains voient passer tes tenues et disent « Mais où est-ce qu'il arrive à avoir toutes ces tenues vintage, Marc ?»
Ils cherchent un petit peu sur Internet et ils vont trouver, du côté de la Belgique notamment.
Oh là là, bah voilà, ça y est, on a relancé une mode peut-être. Julien Beneteau, ça va? Parce que c'est vrai que du coup, on te tacle, mais on ne te dit pas bonjour.
C'est pas grave. Oh. J'ai l'habitude.
Et il paraît que tu étais dans la corbeille
non,
au Parc des Princes.
Non, je suis pas dans la corbeille. Je suis pas Denis Charvet. Mais j'étais à côté. Et je disais que non, c'était un endroit devenu très.
Et Marc Riva aussi dans la corbeille. T'as été invité dans la corbeille.
Oui.
Ouais. Mais Marc a carrément conduit Louis Cendriquet dans sa voiture.
Je rappelle. Ah ouais.
Mais. Ça faisait un peu plus d'un an que j'étais pas allé voir un match en vrai au parc. Et honnêtement, c'est exceptionnel. L'entrée des joueurs, leur nouvel hymne, la pelouse, le stade, pour un PSG Lorient,
etc. Ouais, mais trois jours après ce qui s'est passé, en plus, tout le monde devait avoir la banane, non?
C'était une ambiance particulière. Oui, mais après, et puis ils sont indulgents par rapport à ce qui se passe sur le terrain et tout. Mais je veux dire, l'ambiance générale, il y a vraiment un club où ils mettent tout. Tu sens qu'il y a une atmosphère qui est propice à la performance.
Tu veux dire que l'expérience client est à la hauteur?
Oui, parce que
c'est horrible. Il faut marcher comme ça maintenant.
Ouais.
Bonjour David Douillet.
Comment ça va?
Ça va et toi David?
David.
Ouais. Et en pleine forme.
Pleine forme. David qui est très heureux en plus parce qu'il se disait bon, je vais regarder la Formule 1 ce soir à 22h, je vais l'écouter, c'est un peu tard. Et puis là, il s'est rendu compte que finalement, c'est à 19h.
Fantastique.
Le Grand Prix de Miami à suivre sur RMC à cause des conditions météo. On a avancé pour être sûr.
Il faudrait le dire à Jean-Luc.
Tu penses que Jean-Luc est pas au courant?
Il faut rentrer de la plage.
C'est pour ça.
Si on donne rendez-vous au premier virage à 22h, il n'y aura pas grand monde, je vous le dis direct. Vous inquiétez pas, c'est Jean-Luc qui nous a averti à 3h du matin. Je vous le dis
19h, d'accord.
Voilà, c'est comme ça. Les grandes gueules du sport ce matin. On a beaucoup de choses à traiter. À 10h sur le ring, on a 3 semaines de Roland Garros. Sinner est-il intouchable? Il affronte Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid à 17h. Vous votez sur le compte XDGG du sport. Du rugby avec les demi-finales de Champions Cup. Ah, c'est pas passé loin pour Toulon hier, hein, malheureusement. C'est le Leinster qui est passé. UBB Basse à 16h aujourd'hui à suivre sur RMC. Ce match peut-il décider de la saison des Bordelais? Ils sont actuellement 6e en top 14. Punchline, on l'écoutera de Yannick Bru, le manager, sur le buzzer. Est-ce qu'on sous-estime la difficulté d'un premier tour potentiel pour Paul Seixas alors que le jeune Français doit annoncer sa décision sur sa participation cette semaine? C'est imminent, on en parlera tous ensemble. Parce que là, c'est vrai qu'on est tous un peu très enthousiastes, mais rentrons un peu dans le détail de ce que c'est vraiment l'intérieur. Et franchement, un premier tour, Marc, oui ou non, c'est facile?
Un premier tour?
Ouais.
Quand on est n'importe quel autre coureur, ça peut être assez facile, même si c'est forcément une échéance importante dans une carrière, et quand on s'appelle Paul Seixas, ça devient compliqué.
On en parle tout à l'heure, à 11h30, zapping.
Le débat est fini.
Bah non.
Merci Marc.
C'est exactement ce que j'allais dire, il m'a copié en fait.
Voilà, bon, restez avec nous, écoutez nos podcasts, hein, sinon Christophe et David, hein, si vous voulez voir ce que Marc a dit à 11h30. Le zapping, les GG remontent le temps, il y a 32 ans, hein, on le dit souvent, hein, après le 1er mai, mais on est à 32 ans après la mort de Ayrton Senna à Saint-Marin. Pourquoi Senna reste omniprésent? On va continuer d'en parler évidemment. Et puis le vestiaire, comment est-ce qu'on aborde une revanche alors que se profile le match retour Bayern-PSG mercredi. Tiens, en parlant de revanche, en fin d'émission, participez au jeu du sport. Revanche pour toi, non. Christophe, peut-être. Remportez votre badge de télépéage fully crédité de 150 euros de péage. Hein. Vous pouvez passer partout en France, en Espagne, au Portugal ou en Italie pour gagner votre badge fully. Appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Tu sais, je suis toujours fasciné par le fait que tu dis je ne joue plus, mais il y a toujours des gens qui appellent et qui disent je veux jouer avec Christophe Cessieux. Soit personne ne nous écoute. Alors c'est quand même terrible. Alors que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Au contraire. Soit tu as vraiment une cote d'amour.
Non, mais
une cote d'amour.
J'arrive de temps en temps à inquiéter Julien. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à inquiéter Julien.
Non, mais dans les EHPAD, il y a pas mal de radios.
Tu sais. On embrasse tous nos auditeurs. Et auditrices.
Avec ce qu'il a fait hier. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège.
Allez les amis, nouvelle humiliation hier à la Beaujoire et adieu certainement à la Ligue des Champions l'an prochain. Est-ce le naufrage définitif de l'OM cette saison ?
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Iceberg, droit devant !
Le but nantais !
Le voilà, le but nantais attendu par tout un peuple jaune et vert. Et Vaïd qui serre le point à côté de nous. Ils ont réussi à trouver la faille, enfin !
On a l'impression qu'on ne pouvait plus aller plus bas.
1-0 et c'est quand même mérité.
Et on peut encore creuser, et je passe encore à l'heure où je parle, qu'on va encore creuser.
Cavella pour le deuxième but. Quelle occasion magnifique pour mener les Canaris qui doublent la mise.
Tu t'entends pas avec le coach, moi je m'embrale, tu cours.
Les Marseillais ne sont pas du tout dans le coup cet après-midi. Ah non.
Tu t'entends pas avec Benatia, tu cours.
Ablin qui rentre dans la surface de réparation du numéro d'Ablin.
Le but d'Ablin, incroyable. Le petit numéro, tout seul.
Oh, c'est trop de leur demander donc de faire leur travail, basta.
Le FC Nantes mène 3-0 face à Marseille après 58 minutes ici, alors qu'ils n'ont gagné que deux matchs à la Beaujoire. Et là, on voit mal comment cette équipe marseillaise pourrait se relever.
C'est des escrocs qu'on a vus sur la pelouse aujourd'hui. Ils ne méritent pas de porter ce maillot. Il ne faut plus qu'ils le portent.
Les Marseillais se sont noyés à la Beaujoire aujourd'hui. Les Marseillais sont hors de la Ligue des Champions.
Là, ce soir, ce qu'ils ont fait, ils ont piétiné tous les gens qui aiment l'OM. Ils te regardent droit dans les yeux et ils te disent « Je t'emmerde ».
Alors, c'était nos amis de Maritima, un média marseillais qui était passablement énervé hier, on va le dire comme ça. Trois buts en 8 minutes.
La différence de Pierre-Yves Leroux qui est sur un nuage. Hein,
le commentateur, effectivement, à la Beaujoire hier.
Il n'avait pas connu ça depuis une vingtaine d'années. Il avait encore des cheveux la dernière fois que c'est arrivé.
Pas sûr. Trois buts en 8 minutes en deuxième mi-temps hier pour une défaite honteuse. 3-0 sur la pelouse de Nantes, avant-dernier de Ligue 1. Les Marseillais humiliés sans réaction lors de cette nouvelle déroute. Troisième match consécutif sans victoire en Ligue 1. Si Lyon et Lille gagnent aujourd'hui contre Rennes et Le Havre, l'OM devra dire mathématiquement adieu à la qualification en Ligue des Champions à deux journées de la fin du championnat. Les Marseillais sont ce matin, écoutez bien, 7e hors de toutes les places européennes au moment où l'on se parle. Les GG, je vous pose la question. L'OM humilié, encore une fois, hein, est-ce qu'ils sont tous responsables ? Christophe Cessieux.
Il n'y en a pas un pour attraper l'autre.
Julien Benneteau.
Ils sont tous responsables, mais hier, c'est que les joueurs.
Marc Madio.
Tous responsables sur l'ensemble de la saison.
Ouais.
David Douillet.
C'est un sans faute, unanime, oui.
Supporters marseillais, c'est surtout vous qu'on attend ce matin au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Tiens, Habib Bey, le coach marseillais, à l'issue de la rencontre hier, impossible de protéger ses joueurs.
Ce que je leur ai dit, c'est que là, je pouvais pas les protéger. Que si je les protège aujourd'hui, je passe pour un menteur. Et qu'à partir du moment où tout le monde a vu ce match-là, tout le monde a vu les comportements, tout le monde a vu les efforts, tout le monde a vu les prestations. À partir du moment où on n'a pas cette notion d'engagement dans un match comme celui-ci, à la mi-temps, je peux sortir 80% de l'effectif. Et après, je vous cache pas que on voulait agir, mettre des jeunes dans cette situation-là, pour moi, c'est pas leur rendre service. Il fallait aussi qu'on se rende compte sur le terrain de ce qu'on vivait, que ça puisse impacter. Parce que quand on est l'Olympique de Marseille, quand on porte le maillot de l'Olympique de Marseille, et quand on en est l'entraîneur, c'est ce qui est très difficile à accepter, de voir ce visage-là de l'équipe.
Voilà, Habib Bey, qui on l'écoutera tout à l'heure, hein, a dit qu'il ne démissionnerait pas, qu'il irait jusqu'au bout. Exceptionnellement, une cinquième GG rejoint le tour de table. Notre coach Pascal Duprat est avec nous ce matin. Salut Pascal.
Ouh là là, les amis, comment allez-vous?
Ah oui, non mais là,
c'est du lourd. Salut Pascal.
Quelle surprise de vous écouter ce matin. Franchement, qu'est-ce qui se passe?
Tu nous as appelé au 32-16. C'était pas du tout prévu. Hein, il faut bien le dire. Non mais Pascal, voilà, là on s'est dit que la situation était suffisamment grave. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Marseille cette année. Hein. On nous reproche parfois d'avoir beaucoup trop parlé de Marseille.
Un débat par week-end.
Mais c'est vrai que l'OM a alimenté aussi ce feuilleton, notamment la direction, le staff et les joueurs. Tiens Pascal, toi d'abord, est-ce qu'ils sont tous responsables ce matin de la situation?
À des degrés divers, oui. Tous responsables. Le premier en chef, c'est McCourt, l'actionnaire, qui s'est évertué à casser ce qui semblait pas trop mal marcher, donc le triumvirat Longoria, Benatia, De Zerbi, ben tout d'un coup on a décidé que De Zerbi faisait plus l'affaire. Et à partir de là, eh bien on va de déconvenu en déconvenu,
bon,
de
trahison en trahison. Aussi, hein,
Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas parce qu'un entraîneur veut s'en aller qu'on est obligé d'accéder à ses désirs. Je prends l'exemple de Benatia qui voulait démissionner, qui s'est retrouvé renforcé dans ses prérogatives. Donc, ce qui veut dire que des herbures
et qui va partir avec un beau chèque en plus, j'imagine. Hein.
Bien sûr, et terminé.
Je ne sais pas, Christophe. Ouais. Mais bon,
non, je pense pas. Non, Benatia partira. Non.
Il partira comme ça.
Hein. Ouais. Il a décidé de partir, mais il prolonge. Donc, comment veux-tu que les joueurs s'y retrouvent? Alors, même s'ils sont pas absous de tout, ils ont des responsabilités, bien entendu. C'est eux qui courent. Je n'ai presque envie de dire que celui qui a le moins de responsabilités, c'est Beille, parce qu'il est là depuis moins longtemps que tous les autres. Même si il montre quelquefois, franchement, ça m'énerve en tant que coach. Voilà, même encore sa déclaration hier, bon, elle est ubuesque. C'est ta responsabilité si les joueurs s'entraînent bien la semaine et jouent pas bien le week-end. C'est tout. C'est pas besoin de les clouer au pilori une fois ou deux fois, de temps à autre. C'est ta responsabilité. Si les joueurs ont pas couru hier, c'est de la responsabilité de l'entraîneur. C'est pour cette raison que nous sommes bien payés. Je le pense, très franchement. Et je pense que c'est ce qu'il aurait dû dire. Mais cela dit, pour moi, McCourt, puis ensuite Longoria, parce que depuis plusieurs années, excepté ces 18 mois avec De Zerbi, c'est des mercatos incessants, des changements d'entraîneurs incessants, ce qui fait que c'est toujours un éternel recommencement avec l'OM. Et puis Benatia, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est plus crédible à partir du moment où il a dit qu'il démissionnait, mais qu'il reste et qu'il se permet de défoncer les joueurs après Lorient. Comment voulez-vous que les joueurs prennent ça, avec crainte? Ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent parce que Benatia, de l'OM, ils s'en fout aussi, puisqu'il a acté son départ en fin de saison. Mmh. Donc tout ceci fait que l'OM est dans un marasme, et j'ai bien l'impression que c'est la chronique d'une lente descente annoncée. J'ai peur que l'OM ne fasse pas de Coupe d'Europe du tout à ce rythme-là.
Ah, c'est sûr. Se poser la question il y a quelques semaines, est-ce que Marseille court à la catastrophe? On est en plein dedans. Hein. On y est, Christophe. Hein.
Oui, on est en plein dedans parce que effectivement, tu vois pas quelles sont les solutions qui pourraient s'offrir à l'OM. Les joueurs ne font plus l'affaire. Ils ne sont pas motivés. De toute façon, il y a un tel turnover à Marseille que tu peux pas inculquer en si peu de temps l'amour du maillot à ces joueurs. D'autant que les entraîneurs arrivent, s'en vont eux aussi. Donc difficile d'inculquer ça. Aujourd'hui, McCourt comptait quand même sur l'apport de la Ligue des Champions. Ça a ramené quand même plus de 50 millions dans les caisses de l'OM pour la saison dernière. Sans ces 50 millions, que va faire l'OM? Alors on nous parle de tout changer, tout bouleverser, changer d'entraîneur, changer de joueur, mais tout ça, ça coûte un blé pas possible. Il n'y a plus d'argent qui rentre avec les droits télé. Comment tu vas faire aujourd'hui? À moins que McCourt vende toutes ses propriétés aux États-Unis, je pense que l'OM part à la cata, mais pour de bon.
Plus de 100 millions de pertes, on rappelle, sur cet exercice.
100 millions de pertes, à un moment, l'Américain, il est bien gentil, il va fermer les vannes et là tu vas te retrouver dans quelle situation? Alors on nous parle toujours d'un éventuel repreneur, mais qui aujourd'hui aurait envie de mettre des sous dans ce club qui n'y arrive pas?
C'est l'OM quand même.
Mais d'accord, c'est l'OM. Mais l'OM, c'est pas facile à gérer comme club. La plupart de tous ceux qui sont arrivés à l'OM qui ont mis de l'argent, il y en a peu qui ont réussi à faire fonctionner le club sur la durée.
David?
Moi je me pose une question, alors je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais Il y a des réactions illogiques. Un McCourt qui influence pour changer des choses qui fonctionnent, c'est ce qu'expliquait Pascal. Mais ça date pas d'aujourd'hui.
Enfin, qui fonctionne, les amis, soyons quand même prudents.
Qui fonctionnait pas si mal. Enfin, bon, bref, peu importe. Des gens qui veulent partir pour mille raisons, etc. Je me pose une question très, très simple. Est-ce que McCourt est le réel patron à l'OM? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres influences, réseaux, peu importe, qui viennent perturber la mécanique sportive, donc des réseaux extra-sportifs qui viennent toujours apporter leur grain de sel, peut-être être influents, mais une influence extrêmement
néfaste.
Néfaste, puissante, négative, etc. Et tout ça vient parasiter quelque chose qui devrait fonctionner un peu plus simplement.
Il est un propriétaire trop absent, disent souvent.
Je suis pas sûr qu'on ait tous les ingrédients, en fait, toutes les datas et toutes les informations pour expliquer ce qui se passe.
Non, mais c'est vrai que certains supporters ont reproché. Il était là sur la fin de saison. Hein. Il est venu, Franck McCourt, notamment pour annoncer un nouveau président, Stéphane Richard, qui arrivera pour la saison prochaine. Mais on lui a reproché souvent d'être un peu trop absent dans le quotidien de l'OM.
C'est le propriétaire.
Le quotidien, il était géré par Longoria. Pour moi, le point zéro de la chute abyssale est, à l'époque, De Zerbi était largement critiqué, mais c'est quand Longoria et Benatia, même si De Zerbi voulait partir, au lendemain de Bruges et au lendemain de la défaite contre le PSG, sur une réaction épidermique, et quand t'es président de l'OM ou directeur sportif de l'OM, tu peux pas réagir, et Marc, toi qui es patron d'une grande équipe, tu peux pas réagir de manière épidermique, surtout à l'OM, en prenant une décision très forte en cours de saison, alors qu'à 30 secondes près, t'étais qualifié en Ligue des Champions, que tu perds 5-0 au PSG, vu la différence des deux équipes, c'est pas affamant, et les supporters dont je suis, on est plus meurtri par des défaites humiliantes au Parc des Princes. Là, tu décides de tout casser, en plein milieu de la saison, ton projet. Tu te sépares De Zerbi, et là, c'est le début du marasme. Ça, c'est la première erreur pour moi qui est abyssal.
On parle même pas de Rabiot en début de saison.
Rabiot, c'est la première, t'as raison. On l'a oublié, c'est ça. Quand tu vois comment, à côté, un club qui ressemble, on dit souvent, c'est l'OM du rugby, Toulon, comment ils ont géré le cas Pierre Mignoni, qui était pas bien, qui était critiqué, mais qui lui ont donné 15 jours, 3 semaines de repos pour qu'il revienne, parce qu'il croit en lui, parce qu'il pense que c'est vraiment l'homme du projet. Et ben, si Longoria et Benatia pensaient vraiment que c'était De Zerbi et qu'ils voulaient s'inscrire là-dedans, il fallait faire la même chose.
Mais est-ce que c'est possible? Alors, si, j'entends possible. Ce que tu dis, Benatia, si, est-ce que ça aurait été possible de donner 2 semaines de repos à Roberto De Zerbi?
Il y avait 2 matchs à faire. Et 2 matchs à faire. Tu mets Pancho sur le banc et il les a fait, etc.
Non, mais n'oublions pas le contexte brûlant de l'époque aussi. Hein.
Le contexte brûlant, c'est toi qui te le mets. Le contexte brûlant, c'est quoi? T'es 3e du championnat à ce moment-là. Tu te qualifies pas en Ligue des Champions, d'accord? Mais sur un. Alors oui, sur des erreurs de ta part avec Liverpool et Bruges. Mais sur un scénario incroyable. À un moment donné, il faut être capable de prendre
De Zerbi.
Quand tu gères ce club, il faut être capable
de mettre sur le feu aussi.
Bien sûr, mais justement.
On me parle mal parce que je suis italien, il y a du racisme. Dans le championnat de France, mais il était un peu là aussi en train de péter les plombs.
Maintenant, la situation d'aujourd'hui,
il y a eu des recherches permanentes de bouc émissaire.
Aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, les seuls fautifs là aujourd'hui, le 2 mai, ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs. Ils ont eu De Zerbi, ils ont eu Pancho, ils ont eu Bey. Il n'y a pas un entraîneur au monde qui donne comme consigne de marcher pendant 70 minutes. Il n'y en a pas un. Les mecs, ce qu'ils font depuis des matchs, mais
c'est la faute professionnelle.
C'est lamentable. Bey, il n'a pas démissionné. Il est dans la merde. Il s'est foutu dans la merde tout seul avec Benatia. Il ne pouvait pas refuser ce poste. Il reste 2 matchs. Il n'a pas à démissionner. En revanche, moi, je suis patron de l'OM, là. Mais Bey. Mais les joueurs, ils se démerdent. Les gars, vous savez quoi? Votre coach, il est payé. Votre staff, il est payé. Et vous reste 2 matchs. C'est de l'autogestion. Vous vous démerdez.
Tu penses sincèrement que les joueurs de foot,
il faut les mettre devant leur responsabilité, les Balerdi, les Medina et compagnie. C'est lamentable ce qu'ils font. Ils se démerdent pendant le match. De toute façon, c'est dans la merde. Tu finis cette
émission,
il
n'y
aura pas de
Coupe
d'Europe. Et tu repars, il y a 5 joueurs que tu peux garder pour l'année prochaine. Vouéa, Pechao, Timber, Emerson, parce que sur le et à Gerd. Le reste, et les 2 derniers matchs, les gars, vous avez vu ce que vous faites? Vous crachez sur tout le monde? Ben vous vous démerdez, vous ne voulez pas vous entraîner, vous allez à la place, mais vous allez assumer devant 50 000 tout seul sans entraîneur au Vélodrome. Vous vous démerdez. Il n'y a pas un entraîneur qui donne une consigne de ne pas jouer, de ne pas marcher, etc. Mais ils se prennent pour qui, ces mecs? À Lorient, c'est scandaleux. Hier à Nantes, c'est scandaleux. Ils se prennent pour qui?
Marc, tiens, Pascal, avant de te réécouter, mais en tant que manager, c'est vrai, manager d'homme, t'entends ce que dit Bennett sur les joueurs? À un moment donné, il faut aussi mettre les joueurs face aux responsabilités.
Bah, tout le monde est responsable, hein, on l'a dit en amorçant ce débat. Moi, je crois que de toute façon, il reste peu de matchs. Il faut faire avec ceux qui ont envie. Et je pense qu'à l'intérieur, oui, mais enfin, encore, je pense.
Il doit bien y avoir des jeunes de 18 ans, de 19 ans.
Le sujet, c'est de terminer la saison le mieux possible avec les gens qui ont envie. Déjà, identifier ceux qui sont réceptifs au fait de dire on se bat, on mouille le maillot et on essaie de sauver quelques points. Mais je pense que ça, c'est assez simple et assez facile quand on est entraîneur ou dirigeant du club au quotidien. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi. Donc, nous, on est loin de tout ça, on observe à travers les images et à travers les interviews, mais je pense que eux, dans le secret du vestiaire, ils savent pertinemment qui a envie et qui ne veut plus en jouer. Donc à partir de là, on essaie de reconstruire tant bien que mal une petite équipe pour terminer la saison, et on peut avoir quelques bonnes surprises, pourquoi pas, puisqu'on part de si bas. Et ensuite, moi je crois qu'en fait... l'OM a besoin de retrouver son identité. Quand on a un propriétaire qui est américain, et on vient d'évoquer le fait qu'il n'était pas spécialement présent au quotidien dans la vie du club, ça c'est déjà un premier sujet. Je pense que quand on est Marseille, à l'OM, on a besoin de voir, de toucher et de palper le président. On a besoin de voir, de toucher et de palper l'entraîneur. On a besoin d'avoir confiance en l'encadrement qui est présent sur le terrain.
Il faut un ancrage local, parce que c'est un club avec une forte identité locale. Il faut que les gens qui sentent le maillot.
À longueur de débat, on dit Marseille, c'est particulier. Donc, on sait qu'on est dans un contexte très spécial. Donc, moi, je pense qu'il faut que les Marseillais se retrouvent entre eux. Et
du coach avec le nouveau président.
Ben oui, mais
tu verrais un coach plus marseillais.
Moi, je mettrais un coach marseillais et j'irais chercher des joueurs qui ont une affinité avec le club, même s'ils sont un peu moins bons techniquement.
Gattier, même s'ils sont CGM propriétaire, puis voilà.
Mais faut repartir de la base marseillaise et être marseillais. Et je pense que pour être à l'OM, il faut être marseillais.
Si on n'est pas marseillais, c'est mort. J'aimerais évoquer quelque chose, les amis. C'est un truc complètement dingue. Hein. C'est de la science-fiction, hein, ce que je vais vous dire. Mais juste, je pose le truc. En pleine théorie du complot, on a un club, on a un Américain qui est pas là, etc., qui a mis de l'argent, etc. Le club, il a une certaine valeur. Imaginons qu'il y ait, je repars sur mes réseaux d'influence, quelqu'un qui s'aborde le navire sciemment de l'intérieur, quelqu'un ou plusieurs personnes ou un groupe, et qui a comme objectif de se réapproprier le club, de racheter le club. Quelle est la meilleure stratégie?
Bon, David, franchement, mais tu penses que jusqu'au
c'est la
joueur,
théorie
ils vont vouloir
complot.
Se saborder.
Non, oui, mais bon, c'est la Georges, tu sais, quand il y a beaucoup d'argent, l'inimaginable,
oui,
moi
mais,
j'ai vu
oui,
les
mais,
trucs
mais,
de dingue,
tu
hein.
sais, David,
l'inimaginable est souvent quelquefois.
Les joueurs jouent leur carrière aussi, leur propre carrière. Les
mais
joueurs
bien sûr, mais on peut leur promettre des choses derrière.
Eux, s'ils se sabordent eux-mêmes, ils ne peuvent pas être. La dernière fois, moi, en tout cas, je veux pas qu'on mette en avant des théories sur lesquelles on n'est pas capable de développer ou d'avoir des informations, parce qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Donc, évidemment.
Bah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était de la science-fiction.
Oui, je sais. Mais du coup,
je jette le truc parce que c'est tellement illogique. Il n'y a pas de logique là-dedans. J'arrive pas à comprendre, moi. C'est pour ça
il y a quand même une constante, par contre, c'est chaque fois qu'un joueur signe à l'OM, il vante les mérites de ce club, il est heureux d'être là, et un an ou quelques mois plus tard, il a qu'une envie, c'est se tirer. Mais c'est pas parce que les joueurs ne pensent qu'à leur gueule. C'est parce que le contexte est ainsi fait qu'à l'OM, prenons l'exemple de Rabiot, tu l'as survolé tout à l'heure, Georges. Rabiot, voilà pas que le premier match de la saison, il se prend de bec avec un de ses partenaires. Apparemment, c'était violent, il s'envoie des pipes, ok? C'est franchement, De Zerbi et Benatia et le président Goria, c'est pas la première fois qu'ils voient des joueurs se prendre la tête dans un vestiaire ou en aller aux mains. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Et voilà pas que parce que, sous prétexte que Rabiot est trop vindicatif, on le met sur la liste des transferts. Et après, quelques mois plus tard, à Lorient, j'entends Benatia qui dit « Ouais, les joueurs, il n'y a personne qui se rebiffe. » Bah, chaque fois qu'ils se rebiffent, tu les vires. Comment veux-tu qu'ils se rebiffent? Quand tu as, par exemple, le capitaine qui s'étonne au nom des joueurs, qu'il y ait trop de monde dans les vestiaires à la fin des matchs. Donc, il s'en ouvre à Benatia le reprend de volée. Donc, le capitaine
capitaine, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute, tu sais quoi, le dépassement de fonction, c'est terminé pour moi. En fait, il y a tout un contexte qui fait que, bah, tu lisses, en fait, tu lisses les joueurs. À un moment donné, tu leur dis, taisez-vous. À un autre moment donné, tu dis, pourquoi vous vous rebiffez pas? Bon, tout ceci fait que le contexte n'est pas favorable à l'épanouissement. Je suis pas en train de défendre des joueurs. Ils ont des responsabilités. Mais de là à dire que hier, c'est toute leur faute. Non, c'est un contexte. C'est un contexte lancinant depuis des mois et des mois.
Tiens, on vous attend au 32-16 et sur WhatsApp. J'ai beaucoup de messages. 06-12-84-424. Stéphanie, une fidèle auditrice, nous dit ras-le-bol de cette équipe. On vit les défaites comme des humiliations personnelles. Pour ma santé mentale, c'est mieux de prendre du recul. Martial qui dit moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on s'en prenne à Franck McCourt. Hein, voilà, parce qu'il a mis des millions dans le club et pour faire confiance à ses dirigeants. C'est surtout les dirigeants hein, qui veulent pointer du doigt. Il y a énormément de messages. Évidemment, le mot honte vient beaucoup de la part des fans de l'OM ce matin, comme Hervé sur WhatsApp. On vous attend au 32-16 en un instant. Est-ce que l'OM doit repartir de zéro? Tiens, aussi, c'est la question qu'on va se poser avec vous et les GG. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport renforcées ce matin avec Pascal Duprat, en plus de Marc Madiot, David Douillet, Julien Beneteau et Christophe Cessieux. L'OM humilié encore hier, 7e ce matin à 2 journées de la fin en Ligue des Champions et peut-être désormais plus qu'un lointain souvenir. Est-ce qu'ils sont tous responsables? Est-ce que l'OM doit même repartir de zéro la saison prochaine? Je vous disais, on voulait surtout vous entendre vous au 32-16. On accueille Philippe qui nous appelle de Corrèze, supporter marseillais. Salut Philippe. Philippe, est-ce que Philippe est là avec nous? On va l'avoir dans un instant, Philippe. On va peut-être accueillir Xavier qui nous appelle, supporter marseillais également. Salut Xavier.
Salut l'équipe, salut tout le monde.
Bon, comment ça va ce matin quand on est supporter marseillais? Moi j'aimerais savoir en fait ce qu'on ressent. J'ai l'impression qu'au plus de la colère, il y a de la résignation ce matin, Xavier.
Ouais, t'as dit le mot juste, c'est exactement ça. C'est de la résignation. C'est du dégoût aussi quand même. Il y a beaucoup de dégoût et beaucoup de mépris vis-à-vis de ce que j'ai vu hier sur le terrain, notamment du dégoût pour ces joueurs qui se rendent pas compte qu'ils font rêver des gamins qu'ils ont quand même une certaine responsabilité quand on est footballeur professionnel. Donc moi je parle d'abord du terrain parce qu'avant de parler des gens qui sont pas sur le terrain, je veux parler de ceux qui sont sur le terrain. Ce qu'ils ont fait hier, c'est inqualifiable en fait. C'est inqualifiable. Tu portes le maillot de l'Olympique de Marseille, tu cours pas, tu fais rien, tu gagnes pas un duel, tu laisses Nantes te marcher dessus. Nantes, on parle de Nantes. D'accord, Nantes, on sait très bien.
Toi, tu en veux surtout aux joueurs ce matin, Xavier, c'est ça surtout?
C'est eux qui sont sur le terrain, je leur en veux à eux en premier, parce que ce qu'ils ont fait hier, même si on m'explique, oui, ils n'ont plus la tête, ils balancent la saison, ils n'aiment pas Habib Bey, ils n'aiment pas Benatia. Non mais attendez les gars, vous quand vous venez au boulot, si y a des mecs que vous n'aimez pas au taf, vous balancez votre travail comme ça.
Bah non, regarde, je travaille avec Christophe tous les jours.
T'as vu, voilà, exactement, t'as vu, voilà. Toi, tu balances pas ton émission, pourtant ça ne va pas être facile.
Moi, c'est la théorie du complot. J'essaye un peu de saper l'émission pour que Georges me fasse virer. En fait, c'est comme ça.
Tu fais ton Greenwood.
Exactement. Non, mais toi, Xavier, c'est quoi? T'as envie que on reparte de zéro? Marc disait tout à l'heure, il faut un peu plus de Marseillais, peut-être, des gens qui sentent un peu plus le club.
C'est ça. En fait, on en revient toujours au même point. Chaque année, on nous dit ça. Tu sais quoi? Moi, la seule chose qui me fait plaisir, c'est que dans 2 matchs, il y a certains mecs, je les verrai plus jamais porter ce maillot. Et ça me fait déjà du bien parce que clairement, je vais pas tous citer, mais bon, voilà, on sait, Balerdi, tout ça, bon, voilà. Ça portera plus maillot l'OM, et y compris Greenwood, parce que Greenwood dit ok, t'as marqué des buts, mon poulet, merci, tu nous as fait des actions, etc. Enfin, n'oublie pas que on est le seul club de ce niveau-là qui a accepté de te prendre, qui t'a démarché pour te prendre, et on relance ta carrière, et tu nous fais ça. Ben, tu nous fais ça. Vous l'avez vu le plan large là sur la contre-attaque de Nantes?
Oui, ils sont complètement.
6 contre 3, il arrête sa course. J'ai jamais vu ça. Même en district, j'ai jamais vu ça. Non, c'est waouh.
Mais c'est ça.
Donc j'en veux d'abord à ces mecs-là.
Xavier pointe du doigt tout ce que je déteste dans le foot. C'est devenu le sport collectif le plus individuel qui soit, et t'as raison de pointer des doigts.
Le manque de reconnaissance de mec à qui on a tendu la main.
Mais exactement, Greenwood, c'est vrai, t'as raison, on oublie ça.
Le mec, il a des histoires. Ce n'est propre qu'au foot.
Bah, je suis désolé. Vous laisser cracher sous le foot de cette manière-là.
Je
voyons.
Suis désolé dans
arrêtons.
Les autres sports collectifs.
Arrête,
en Europe,
arrête, s'il te plaît.
Je vois pas
arrête.
Ce genre de comportement en rugby. Je vois pas ce genre de comportement en handball.
Mais t'as pas le droit de
je suis désolé.
Comme ça.
Je suis désolé, t'as Pascal. Le c'est les
en fait, à l'OM, on fabrique. Il y a une chose qu'on fabrique à l'OM, c'est comme on surpaye tout le monde. On surpaye tout le monde. Donc à partir de là, les dés sont presque pipés. Parce que les mecs pensent que c'est des stars. On les surpaye. Pour venir à l'OM, ils sont tous surpayés.
C'est
pas eux qui arrivent dans le bureau du président avec un bazooka pour leur dire paye-moi.
Et si t'es surpayé, et ben justement, tu fais des sur-efforts. Et tu fais pas l'inverse et tu te prends pas pour.
Mais le contre-exemple de ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, tu t'es enthousiasmé contre le Bayern. C'était des footballeurs qui étaient sur le terrain aussi. Donc comme quoi, c'est les contextes qui font que quelquefois tout part en vrille.
Mais c'est ce que disait Eddy Mélassa d'ailleurs. Hein, il y a quelques temps. Il disait le contexte.
C'est pas
la
une généralité, mais il y a une certaine, population de joueurs de football. Et le PSG Bayern, on l'a dit hier. C'est ce qui se fait de mieux au monde. Et ben oui, dans tous les sports, de ce qui se fait de mieux au monde, pour être dans les meilleurs du monde, tu fais tout très bien en général, ou en tout cas, tu fais beaucoup de choses
mais
très très bien.
Il y a quelques, il y a quelques années,
qui était dans les buts hier et qui était là.
À peine 18 mois au Paris Saint-Germain, on avait aussi ces critiques-là parce qu'on considérait que le PSG jouait pas en équipe, parce qu'il y avait 2-3 stars qui couraient moins que les autres. Tu comprends? Parce que certains étaient, dispensés de certaines tâches ou de basses besognes. Ça ne faisait pas une équipe. Et tout d'un coup, le Paris Saint-Germain a décidé de... Ok, et le mérite en est revenu au président et à Luis Enrique. Ils ont décidé d'arrêter la politique des superstars et de construire une équipe. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, démontre qu'il y a des footballeurs responsables aussi.
Oui. Est-ce qu'ils sont tous responsables?
Pascal, je reviens sur ce que tu disais. À Marseille, on surpaye tout le monde. Qui décide des salaires à Marseille?
Bon, certainement ceux qui sont à la tête de l'équipe, Longoria, les dirigeants, mais ça a toujours été comme
ça. Quel est le métier de Longoria? Quel est le métier de Longoria?
Au départ?
Ouais.
Ce que tu veux me faire dire quoi? Qu'il était agent?
Ouais, par exemple, ouais. Il n'y a pas des questions à se poser là, mon
vieux.
Faut quand même se réveiller, non?
David soulève le tapis.
Ah oui, je soulève le tapis parce que j'ai quelques potes comme toi, Pascal, qui sont dans le milieu et qui m'ont montré ce tapis, tu vois. À un moment donné.
Ouais,
faut se poser des questions.
Oui, mais David, on peut se poser des questions. Le problème, c'est que si on n'a pas d'informations, on peut pas jeter l'opprobre comme ça sur tout le monde, parce que.
Ouais, mais bon, si on est là pour se dire des banalités tout le temps, c'est rien.
Mais non, David,
faut ouvrir des pistes.
Mais non, mais on peut pas accuser.
On ouvre des pistes.
On peut pas accuser des gens.
On accuse personne.
Mais on laisse quand même des.
J'ai accusé personne. Je me pose des questions, c'est tout.
Je remercie.
Je me pose des questions. L'OM n'est pas capable de maintenir son niveau. Pascal ouvre des pistes. Ils sont surpayés, etc. Qui surpaye? Pourquoi? Comment? Etc. À un moment donné, il faut réfléchir un petit peu.
Je remercie Xavier de nous avoir appelé au 32-16. Juste pour aller dans le sens peut-être de ce que lisait Bennett sur les joueurs. Intéressant d'écouter Frédéric Gilbert, défenseur du SC Nantes, hier, nous parler des Marseillais sur cette rencontre. Écoutez.
Ouais, c'était un bon match, on a mis de l'intensité. On savait qu'on a analysé un petit peu leur réchauffement. Et on a vu qu'ils étaient un petit peu suffisants. On a voulu mettre du rythme, leur rentrer dedans et je pense que ça a fonctionné ce soir. Je pense qu'aujourd'hui ça résume un petit peu notre fin de saison surtout. On a des actions et on les marque pas et on se fait punir après. Ce soir on a marqué, c'est bien, on espère défaite de serre demain. Se battre, on va pas lâcher et puis voilà, en tout cas jusqu'au bout et avec honneur et fierté pour nous et pour le SC Nantes.
Voilà, on a vu des joueurs qui étaient un peu suffisants en face à l'échauffement. Ouais. Non mais c'est quand même un truc.
Quand tu portes le maillot de l'OM, que tu es considéré comme le deuxième club de France, tu arrives sur le terrain peut-être un peu avec le melon. Et pourtant, il n'y a pas de quoi l'avoir le melon au vu des résultats de la saison.
Pas melon, c'est qu'il quand il est suffisant.
Pas suffisant.
Et Delange, de ses buts, il a dit on a été paresseux. Il le dit, il le voit, il parle de ses coéquipiers.
Tiens, Philippe, on a retrouvé Philippe, supporter marseillais, les appels depuis la Corrèze. Salut Philippe!
Salut l'équipe.
Bon, préparateur mental en plus. Peut-être que tu pourras avoir un job intéressant en ce moment à l'OM. Non mais tous responsables ce matin?
Ouais, complètement. Complètement. Alors bon, les premiers, ce que disait le collègue, c'est en effet les joueurs par rapport à la prestation d'hier, enfin au moins la prestation de ces derniers temps, parce que c'est pas qu'hier, mais hier, ça fait que résumer ce qui se passe depuis quelques temps. Et ça, c'est impardonnable parce que de pas être bon, t'as le droit de rater des trucs. Par contre, t'as pas le droit d'avoir une attitude pareille. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, moi, je mets aussi la responsabilité à Bay, qui accepte de venir il y a 4 mois dans cette galère, en sachant que c'en est une. Et finalement, le job qu'on lui demande de faire, on se rend compte qu'il est incapable de le faire, que c'est encore pire. C'est-à-dire que.
En fait, si toi tu penses que de prendre l'OM alors qu'ils sont quatrième, c'est une galère, si tu veux, hors antenne, je te parle de ce qu'est des galères. prendre des équipes de Ligue 1, si tu veux bien. Moi je pensais pas que c'était une galère de prendre l'OM quand t'es quatrième, tu vois. Franchement,
ouais, c'est pas par rapport au résultat, c'est par rapport au contexte. Par rapport au contexte et aux objectifs, au moment où il a pris l'équipe, c'était quand même déjà en crise et qu'il y avait l'objectif de se qualifier en Ligue des Champions. Dans ce contexte-là, c'est en ça où moi je considérais ça un peu comme une galère, mais en effet, c'est loin d'être une galère d'être coach de l'OM.
Et qu'est-ce que tu veux voir pour l'année prochaine, Philippe? Tu veux voir un nouvel entraîneur, des joueurs différents,
un nouveau logo?
Oui. Ça aussi.
Non, mais c'est vrai que le logo, je m'en tape.
Ouais, mais le logo est quand même le reflet de ce qu'est l'OM.
Ouais, mais le logo, moi, je m'en tape. Ce que je veux, c'est une équipe. Voilà, ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Et alors là, je sais même pas par où il faut commencer, parce qu'il faut, il faut tout rayer. Il faut repartir, mais ça va prendre du temps.
Ça a coûté de l'argent. Je me demande comment ils vont faire financièrement. Ouais. Moi, c'est ma grande interrogation.
Ah bah, y a beaucoup de joueurs qui risquent de partir, effectivement.
C'est très inquiet pour les finances de Franck McCourt. Ouais.
Franck McCourt a déjà décidé d'arrêter de cracher au bassinet comme il le fait depuis qu'il est arrivé. Il a demandé un changement de truc, que tout se fasse dans le trading, que les rentrées d'argent se fasse par les qualifications en Ligue des Champions. T'as pas de qualif en Ligue des Champions et tes joueurs valent moins qu'au début de la saison. Donc comment tu fais?
Ça va être le rôle du nouveau président Stéphane Richard et du nouveau directeur sportif qui arrivera. Pour l'instant, on attend de savoir qui ce soir. On va voir ce qu'ils vont faire.
Stéphane Richard. Merci. Non, mais Philippe. Vous avez pas de piste.
Il a beaucoup de raisons.
Il n'y a pas de directeur sportif pour l'instant, donc on ne va pas savoir. En fait, c'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, il y a un capitaine annoncé à bord du futur bateau Marseille, mais il n'y a pas de cap. Puisqu'on ne sait pas qui va vraiment être à la tête du sportif. Je remercie Philippe d'avoir été avec nous au 32-16. Évidemment, l'OM, ça fait beaucoup réagir ce matin. Merci Pascal
d'avoir été avec nous. Merci les amis, bonne émission.
Dans les il est Pascal RMC, volontaire pour aller entraîner l'OM. Il est prêt, c'est pas une galère.
Ou même directeur sportif.
Plein de messages sur WhatsApp là-dessus. Hein. C'est pas une vanne. Ouais, à chaque fois, ça revient. Hein. Et à chaque fois, Pascal dit, j'habite quand même pas très loin de la commanderie.
Ah ouais, juste à côté. T'es à pied, t'es et gratos. Tu leur comptes pas l'essence, je suis sûr que ça peut le faire.
Non, je te dis gratos, j'y vais gratos, ils me payent à la perf.
Merci Pascal, à tout à l'heure dans les paris à midi. Allez, dans un instant les amis, le zapping, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. Pablo Longoria, d'ailleurs, qui est en Argentine hein, maintenant. Directeur sportif de River Plate. Ce sera pas forcément plus calme, hein, je vous le préviens, d'être dans la politique sportive d'un des plus grands clubs d'Argentine.
En espagnol aussi.
Comment ?
Corruption.
Ah bah oui, c'est vrai que c'est des sujets. S'il était énervé, Pablo Longoria, en France, en Argentine, je pense que ça va être un spectacle. Hein. Il faudra suivre ça de loin. Dans un instant, le ring des GG. Sinner sera-t-il intouchable à Roland-Garros dans 3 semaines ? Il est en finale à Madrid aujourd'hui face à Zverev. On attend évidemment vos réponses sur le compte XDGG du sport. Mais d'abord, tout de suite, le zapping.
RMC. Le zapping des grandes gueules du sport.
Allez, je m'en fous pas. J-3 avant Bayern PSG en match retour de Ligue des Champions. Les deux équipes ont fait tourner ce week-end et ont été accrochées en championnat. Marc ?
On s'en fout pas.
Christophe ?
Non, on s'en fout pas. C'est le match de l'année qui arrive.
David ?
Je m'en fous.
Bennett ?
Oui, le match est mercredi, de ce qui s'est passé hier, et on s'en fout.
Bah, ah d'accord, donc on n'a pas les informations. Seuls 4 joueurs en jouent, voilà, qui ont joué le match aller contre Paris étaient alignés par le Bayern face à Heidenheim. Lanterne rouge de Bundesliga, les Bavarois ont longtemps mené, mais ont finalement ils ont arraché le nul 3-3 grâce à l'entrée de l'artillerie lourde, la Olysée, Kane, Luis Diaz et Kimmich. Les Parisiens tenus en échec face à Lorient 2-2, sans 9 titulaires habituels au coup d'envoi. Pas de nouveaux blessés, Dembélé, Marquinhos et Kvara sont restés sur le banc. C'était dur de trouver de la motivation pour tout le monde, Luis Enrique.
On terre de motivation, to you, la demi-finale de Champions League dans un ambiance incroyable, un match très important et doit jouer la compétition comme toutes les équipes. C'est normal, on est habitué à ça et je cherche à demander à mes joueurs beaucoup plus. C'est l'ambiance incroyable dans cet stade. Il faut profiter et c'est dommage le résultat parce que, je me répète, on avait besoin de les 3 points.
Ouais, ils avaient besoin des 3 points, mais Lens a été accroché à Nice partout le soir. Les Parisiens ont 6 points d'avance sur Lens ce matin. Ils peuvent être sacrés le week-end prochain. Marc, là, de toute façon, il fallait gérer pour Luis Enrique. L'important, c'était pas avoir de blessés,
faire jouer des joueurs qui pourraient éventuellement rentrer en cours du jeu dans quelques jours. Donc, c'est important de mobiliser tout le monde et de montrer de l'intérêt pour tous les joueurs, les titulaires comme les remplaçants. Donc, c'était le match presque idéal avant le match retour de mercredi.
Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui a été marabouté. C'est Lucas Chevalier. Il aurait dû jouer ce match, s'est blessé. Du coup, c'est le troisième gardien Marine qui a joué. Lucas Chevalier, il doit être au fond du trou. Quand même.
Ah oui, c'est vrai que la séquence est compliquée pour lui. On rappelle, hein, même pour être troisième gardien à la Coupe du Monde, maintenant, ça semble compliqué parce qu'il n'a pas joué depuis mi-janvier, effectivement. Bayern PSG, évidemment, à suivre mercredi sur RMC. Toutes les dernières informations, vous les aurez tout au long de la semaine, bien sûr. Je m'en fous pas. Tiens, en rugby, Toulon est passé tout proche de l'exploit au Leinster en demi-finale de Champions Cup. David.
Ouais, je m'en fous.
Bennett.
Non, je m'en fous pas.
Christophe.
Je m'en fous pas.
Marc.
Allez, je m'en fous aussi.
Les Toulonnais y ont cru jusqu'au bout en demi-finale, mais ils partaient de trop loin pour tout renverser en fin de match. Défaite 29-25, mais c'est vrai qu'on y a cru même sur la dernière action des Toulonnais. Pierre Mignoni, le manager du RCT, était pareil que nous.
Non, moi j'ai vécu comme vous. Sur le côté, non, je crois que les joueurs ont eu beaucoup, beaucoup de courage, vraiment, pour aller chercher cette balle de match. Honnêtement, on l'a eu, mais petit détail. C'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Je pense que Gisson Park est un peu en retard. De loin où je suis, en tout cas. Si c'est à Toko pour le ballon, je pense qu'il aurait essayé. Pas loin derrière. C'est le rugby. C'est très dur pour nous parce que tellement déçu pour mes joueurs. Pas grand monde, pardon. Vous voyez gagner ici. On accepte. Aujourd'hui, le meilleur a gagné. Et c'est pas passé loin. Il faut qu'on revienne pour encore progresser et être meilleur la saison prochaine, j'espère, en Champions Cup.
Et on attend Bordeaux-Bègles basse à 16h tout à l'heure. Mais les Toulonnais, Bennett, ils sont passés proches de l'exploit. Dans une saison où on les imaginait à un moment donné complètement morts, presque. Ouais. Ils ont réussi à relever la tête et presque aller en finale.
Exactement. En plus, tout le monde les perdant. Là-bas, Leinster, qui est l'équipe bis d'Irlande. Mais ce que dit Pierre Mignoni, c'est hyper intéressant parce qu'il dit faut qu'on revienne pour jouer. C'est un peu comme Arthur Fils qui dit faut que je joue ces matchs à haute intensité.
Faut se confronter au meilleur pour apprendre.
Et l'année dernière, en Coupe d'Europe, ils jouent le quart à domicile contre Toulouse. Ils perdent à la fin. Là, ils vont un step plus loin en demi-finale. Ils doivent jouer le Leinster là-bas. Ils sont pas loin. Donc, on sent qu'il y a une vraie volonté dans cette équipe d'aller très loin en Coupe d'Europe à chaque fois.
Et pour cela, il faut qu'ils se qualifient pour la Coupe d'Europe. Pour l'instant, ils sont 8e. Ouais, donc c'est dur, la dernière place qualificative. Ouais. Donc il faut qu'ils restent au moins à ce stade-là pour espérer disputer la compétition. Faute de quoi, ce sera la Challenge Cup. Et là, c'est pas du tout les mêmes affrontements.
Exactement.
Et quel retour quand même pour Pierre Mignoni.
C'est chouette. Parce
mentalement
que
et physiquement,
ses joueurs ont fait front avec lui et derrière lui. Il a vraiment une côte d'amour auprès de son équipe, de ses joueurs. On parlait de Marseille tout à l'heure, on n'a pas l'impression que ce soit la même chose. Lui, il est vraiment, pourtant il leur parle cher, parfois.
Bien sûr,
vraiment un coach à l'ancienne, mais les mecs ont été très touchés par ce qui est arrivé à Pierre.
Il y aura aussi d'ailleurs une demi-finale de Challenge Cup aujourd'hui avec Montpellier-Newport à 13h30. On zappe, je m'en fous pas. En cyclisme, 3e victoire d'étape pour Tadej Pogacar hier autour de Romandie. A-t-il été aidé par les motos suiveuses, Marc ?
On s'en fout pas.
Christophe ?
Non, on s'en fout pas.
David ?
Ouais, ça m'intéresse.
Bennett.
Ouais, je vais écouter.
Le français Valentin Paré-Peintre, qui était sur la course, qui était échappé, a pointé du doigt l'organisation au micro d'Eurosport.
Ouais, je regarde les images, j'espère que les motos étaient pas trop proches derrière, parce que c'était le cas les deux derniers jours. Mais bon, si l'organisation veut faire gagner Pogacar, c'est leur choix. On l'a dit plusieurs fois, donc voilà, mais bon, c'est la vie.
Voilà, et l'idée d'aider avec l'aspiration peut-être à permettre à Tadej Pogacar d'être échappé ou d'avoir un effort un peu moins compliqué. Ah, c'est une petite musique qu'on entend un peu le début.
C'est arrivé sur Paris-Roubaix déjà.
Et sur Milan-San Remo aussi cette année. Marc, il y a un problème avec les motos. Elles aident Tadej Pogacar.
Il y a toujours eu un problème avec les motos. Ça fait partie du déroulé des courses. Les motos sont là pour protéger les coureurs, sont là pour donner des images les meilleures possibles, la photo la plus réussie, ce qui fait qu'il y a une proximité importante entre les motards et les coureurs. Donc
surtout après, les coureurs comme lui.
Surtout les coureurs.
Tous les
comme
coureurs,
lui.
Alors, tous les motards, toutes les motos veulent se placer devant.
Il y a un essaim de motos.
Mais ouais. Les motos sont toujours devant la course. Mm. Et le premier qui bénéficie de cette protection des motos à l'avant de la course, c'est le premier de la course. Mm. Donc il se trouve que Pogacar est souvent le premier de la course. Après, de tout temps, quand on est coureur, qu'on observe les motos autour du peloton, quand on est en tête et qu'on veut attaquer, on essaie toujours d'aller chercher l'aspiration de la moto parce qu'on sait qu'on va obtenir un gain et le temps de réaction de la moto est plus ou moins long suivant les affinités ou le temps de réaction du motard. Il y a des motards qui sont très copains avec des coureurs, c'est une notoriété publique.
T'avais des copains motards, toi?
Mais bien sûr.
Comment t'as gagné Paris-Roubaix, Marc?
En pédalant, mais il peut se trouver que la moto se trouve au bon endroit au bon moment. Parfois, il y a eu des exemples à Sketch d'ailleurs, Gant Wevelgem avec la Mini Comatin, qui a bénéficié de l'amitié qu'il avait au sein du peloton des motards. Mais là, on était peut-être un peu dans l'outrance, mais il y a toujours eu
de la malice.
Il y a la malice. Après, il y a des endroits qui s'y prêtent davantage que d'autres. Par exemple. Le Poggio, oui. Sur Milan-San Remo, on sait que les motos ont du mal à ressortir des virages qui sont très refermés et ça va très vite derrière. Donc il y a forcément un phénomène d'aspiration qui s'installe.
Alors, tu dis quoi, ça fait partie de la course en fait.
Ça
c'est
fait
la
partie de la course
qui est sur route.
Ouais. Après, ouais. Il faut que ça reste dans des.
Faut pas que ça dénature complètement.
Faut pas que ça dénature la course. Mmh. Et c'est aussi le rôle des commissaires de faire leur boulot.
Ouais. Bon, Pogacar, il a pas gagné grâce aux motos 4 Tours de France.
Il a gagné 4 Tours de France grâce aux motos.
Exactement. Évidemment.
Il y a d'anciens coureurs qui sont aujourd'hui devenus motards de course.
Bien
donc
sûr.
Ils connaissent parfaitement votre petit.
Ils connaissent le peloton et ils ont des affinités.
Et le Giro commence dans une semaine où là, parfois, c'est même des hélicoptères qui. Qui servent à aider les coureurs avec l'aspiration. Hein, on pense à Laurent Fignon, exactement. Évidemment, qui en avait été victime. Tiens, je rappelle juste des informations. Les Lyonnaises sont en finale de la Ligue des Champions féminines, puisqu'elles ont renversé Arsenal.
Ça, c'est une vraie info.
Bennett. Voilà, donc elles seront au rendez-vous le 23 mai à Oslo pour aller chercher un 9e titre. Et puis aussi, la France s'est qualifiée en finale de la Coupe du Monde par équipe en badminton. C'est une première fois. C'est au Danemark. Les Français défieront la Chine pour le titre à 18h. Les frères Popov. T'es bon au badminton? Non.
À l'INSEP, j'avais un super pote de badminton. Il s'était fait virer, donc le soir, j'allais taper avec lui.
Ouais.
Et je suis bon, non, mais je suis adroit. Mmh. Je suis adroit, j'ai une raquette, un truc. Ouais. Je sais faire ça encore.
Ouais, d'accord. Allez, les grandes gueules du sport, on revient dans un instant. On va parler tennis, tiens, justement. On va parler de Yannick Sinner. Est-il intouchable à 3 semaines de Roland-Garros? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.